On est arrivé à la fin de l'Ancien Testament. On a fini les livres des prophètes, les 12 petits prophètes la semaine dernière. Et cette semaine, on va prendre un petit peu de temps pour regarder encore une fois avec un panorama encore plus d'au-dessus. Un petit peu à l'image de ce qu'on a pu faire en introduction de la Bible. Mais maintenant, en ayant regardé tout l'Ancien Testament, ça va nous permettre de regarder un petit peu l'idée, ce qu'il y a de sous-jacent à tout l'Ancien Testament. La semaine prochaine, on fera un survol, une introduction au Nouveau Testament. Et donc, ça va nous permettre d'avoir une vision encore plus panoramique des choses que ce qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Et le cours aujourd'hui s'appelle le fil rouge de la rédemption. Et c'est l'idée que dans tout l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il y a cette idée de la rédemption de l'homme qui est en filigrane, qui est visible à certains moments dans tout ce qu'on lit, dans tout ce qu'on voit. Et je voulais commencer un petit peu en parlant du début de la parole de Dieu, pour se poser la question comment est-ce qu'elle commence, la Bible. Et on avait regardé dans la Genèse les choses avec la création, avec la chute de l'homme, avec les débuts de la société, avec l'homme qui se rebellait un petit peu contre Dieu et la chute progressive de l'homme au niveau moral. Et ça, c'était un moment déjà. Et c'est un petit peu, si on est en train de regarder la Bible de manière assez large, l'idée c'est un petit peu comme au théâtre, quand on met en place la scène, quoi. On fait une mise en scène, on annonce un petit peu. Parfois, il y a même quelqu'un qui vient expliquer le contexte, qui dit bon ben il y avait tel personnage, telle chose qui se passe, et voilà. Et là maintenant on est dans l'action. Et la Bible elle rentre tout de suite dans les trois premiers chapitres. On a la situation, on a Dieu qui crée le monde, qui crée l'homme, qui crée la femme. Et puis on voit la chute de l'homme et le fait que c'est un problème qui doit être résolu. Et on a notamment à la Genèse 3, verset 15, ce qu'on appelle le proto-évangile, où il est dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc cette petite phrase, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est une annonce de ce qui allait se passer entre Satan et Jésus. Donc c'est la Genèse 3, 15, c'est page 4 là dans cette Bible. Et après cette mise en scène, on va changer un petit peu de contexte, on va se centrer après dans la Genèse. On se souvient qu'il y avait les premiers chapitres qui nous jusqu'au déluge qui passaient assez vite, et qu'en fait une grande partie du livre, on se concentrait après sur Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Mais pour en revenir à la Bible en tant qu'histoire seule, on voit qu'elle commence avec la création et qu'elle va finir dans l'Apocalypse, qu'on va voir plus loin, elle finit avec la destruction de ce monde et la création d'un nouveau monde. Qu'on voit la Bible qui commence avec la chute de l'homme au tout début et qu'à la fin on a la rédemption de l'homme, la rédemption finale. Qu'on a dans le jardin d'Éden, il y a l'arbre de vie, qui est un autre arbre que l'arbre du connaissance du bien et du mal, et que l'homme est séparé de cet arbre de vie dès le début, et que l'Apocalypse va en parler comme ce qu'il y aura dans la Nouvelle Jérusalem, cet arbre de vie. On voit en regardant comme ça les débuts et la fin, vraiment cette histoire totale. Il y a des commentateurs qui disent aussi, par exemple, qu'il n'y a que 4 chapitres dans la Bible où il n'y a pas de péché présent. Et c'est les 2 premiers chapitres de la Bible et les 2 derniers chapitres de la Bible. Et cette idée que c'est la problématique centrale de la Bible, c'est le péché et la rédemption de l'homme. Je vous disais, cette mise en scène de la Bible, on a la présentation du problème, du péché, comment on est venu à ça. Et après, on a, un petit peu comme à l'image du film, on va avoir un recentrage progressif où ça va nous amener jusqu'à Jésus. On va en parler, mais c'est lui l'objectif de l'histoire. Parce que c'est lui qui va permettre la rédemption de l'homme. Et c'est un petit peu comme dans un film, quand on commence peut-être avec quelque chose d'assez général, on voit la scène, etc. Puis petit à petit, on arrive au personnage en question, où on commence à suivre l'histoire d'une personne dans un contexte. C'est ça l'histoire de la Bible. On part de cette chute de l'homme, du problème, et puis on voit Dieu qui commence avec la rédemption d'un homme, Abraham, qui l'appelle. Ça va donner une famille, la famille d'Abraham, la suite avec Isaac, avec Jacob, et ensuite une tribu qui va ensuite donner une nation. Cette nation va permettre l'arrivée de Jésus, et puis ensuite on va voir que la rédemption avec le Nouveau Testament va devenir accessible à tous les hommes, de toutes les nations, et va être une rédemption universelle. Et dans l'Apocalypse, il est même question de l'idée que Dieu va même racheter ou remettre en état la création même, presque on pourrait dire l'univers. C'est une rédemption vraiment totale. Paul dans Romains parle du fait que la création, l'idée que la création est en gémit, elle est en souffrance, elle attend l'arrivée de Jésus et le fait que les choses soient remises dans l'état dans lequel elles devaient être suivant le plan de Dieu au début. Alors, c'est toujours, on a vu pas mal de textes là dans l'Ancien Testament, on va voir le Nouveau Testament, on voit que c'est des choses qui sont très différentes, qu'il y a des styles littéraires très différents, qu'il y a des choses très différentes, et c'est peut-être pour se rappeler, pour juste le noter, il est bon de se dire que la Bible, on va voir qu'elle forme une unité, mais que c'est pas quelque chose de complètement homogène. On pourrait dire que c'est quelque chose d'hétérogène avec différentes parties qui servent à différentes choses. Avec on va regarder les différentes, peut-être raisons des différentes parties. On voit également, je vous parlais de la Genèse 3:15, on a cette idée de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Mais c'est qu'une partie, c'est pas tout le plan encore. Et dans cette histoire et dans ce qu'on voit de Dieu dans la création et dans le monde, Dieu travaille de manière progressive. Dieu ne montre pas tout d'un coup, c'est pas tout fini. On voit que l'homme part de cellules et devient grandi progressivement, que les plantes, il commence avec une graine et ça devient une plante, que l'arrivée de Jésus, c'est quelque chose qui se fait progressivement avec une révélation dans la Bible qui se fait progressivement dans tout l'Ancien Testament puis le Nouveau Testament. Et on voit notamment que les Paul va dire, ben on voit maintenant que l'Ancien Testament parle de Jésus, mais on n'avait peut-être pas compris quand on n'avait que l'Ancien Testament, et cette révélation, elle est progressive jusqu'à l'arrivée de Jésus. Et c'est bon de se rappeler ça aussi, parce que parfois on peut lire dans certaines parties, et on se dit, mais c'est un petit peu, ça, peut-être, je ne comprends pas trop la place de ces choses. Et donc c'est bon de se rappeler cette idée que Dieu révèle progressivement les choses. Une autre chose que je voulais noter en ouverture, c'est que après la chute de l'homme, après la tentation par Satan, après cet épisode-là, on voit que l'homme se cache. Et dans l'histoire, on voit que c'est Dieu qui vient les chercher. C'est lui qui initie. C'est lui qui va les couvrir. Et c'est lui qui leur dit, j'ai un plan pour la rédemption de l'homme. Et on avait vu, quand on avait regardé la Genèse, que par exemple, le nom de Cain, c'était l'homme que Dieu pourvoit. Et déjà dans le nom, on voit que Ève s'attendait, elle avait compris cette promesse que Dieu allait pourvoir quelqu'un pour racheter l'homme, et elle se disait peut-être que c'est lui. On voit qu'elle s'est trompée vu les comportements et les choses dont Cain se rendra coupable. Mais depuis tout le début, on voit qu'il y a cette initiation de la part de Dieu qui a un plan. Alors, la Bible, on avait regardé en introduction de tout le cours certaines choses sur comment elle était parvenue jusqu'à nous, sur ses particularités un petit peu, et on va se rappeler certaines de ces choses par rapport à notre cours aujourd'hui et l'idée du fil rouge de la rédemption qui se trouve dans toute la Bible. L'idée sur laquelle je veux appuyer, c'est que la Bible est une unité. Elle forme un tout qui est uni. Et souvent, on a du mal à le voir comme ça. C'est difficile souvent de prendre de la hauteur pour arriver à voir le tout, le panorama. Ici, à l'église, on étudie la Bible les dimanches matins et souvent les cours en semaine, on fait livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset. Et avec ce genre d'études, ça peut prendre 5 à 10 ans pour couvrir toute la Bible, voire plus, suivant si on fait tous les livres ou si on revient sur des livres qu'on a déjà faits. Et d'une certaine manière, on a parfois un peu tendance à se concentrer sur les arbres et à pas voir la forêt. On a du mal à se mettre dans cette perspective-là. C'est ce qu'on essaie de faire avec ce cours et aussi aujourd'hui. Trois points que je voulais regarder par rapport à cette unité. Il y a l'unité d'auteur, l'unité de thème, et puis ce que je vais appeler l'unité de personnage avec Jésus. L'unité d'auteur. On sait qu'il y a une variété incroyable dans la Bible. On a vu déjà dans tout l'Ancien Testament. En tout, il y a 66 livres. Il y a plein de styles d'écriture différentes. Il y a des livres historiques, il y a de la poésie, il y a des exposés plutôt presque de la philosophie ou des choses très analytiques, de l'histoire, de la biographie. Il y a 40 auteurs qui sont très différents en tant que personnes, les époques, d'où ils venaient, leurs arrière-plans, écrits sur trois continents différents, à différents endroits, écrits sur une période de 1500 ans, entre les premières choses et les dernières écritures, et avec différents objectifs et différentes raisons, et écrits pour différents auditeurs même. On avait vu, par exemple, avec les livres historiques, avec Esdras et Néhémie, qu'il fallait rappeler au peuple leur histoire et d'où ils venaient, qu'Esdras avait pris du temps pour essayer de rappeler au peuple la parole de Dieu, qu'ils avaient dû reprendre la parole de Dieu pour se redonner leur identité en tant que peuple, et qu'il avait sans doute écrit aussi 1 et 2 chroniques pour leur rappeler leur histoire avant l'exil à Babylone. Mais à travers tout ça, l'idée centrale et qui est répétée dans pas mal d'endroits dans la Bible, c'est que c'est Dieu qui parle à travers ses hommes. Et c'est une particularité de la Bible, cette idée d'hommes qui, en parlant, disent « c'est Dieu qui dit ça ». Ce que j'écris, c'est Dieu qui veut que je l'écrive. Ça peut être perçu comme un petit peu arrogant. Mais la Bible l'annonce sans complexe, et la vie de Jésus lui donne une autorité sans hésitation, sans équivoque. Et on peut par exemple citer dans Actes 1:16 c'est Pierre qui parle et il dit « Mes frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture, ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. » Dans cette petite phrase, on voit l'idée que pour les apôtres dans le Nouveau Testament, ils lisaient l'Ancien Testament et ils disaient « Ces choses sont des choses qui ont été écrites par exemple David dans les psaumes, mais c'est inspiré par l'Esprit Saint, par Dieu lui-même. » Et le mot qu'il utilisait pour dire que la Bible est inspirée, c'est l'idée de pneuma, c'est cette idée de souffle. C'est Dieu qui souffle à travers eux et qui inspire ses paroles. Et donc c'est un auteur. Et c'est ce qui permet d'expliquer la grande unité logique et au niveau des idées de la Bible. On en avait déjà parlé, si vous dites je vais écrire un livre et je vais écrire 2 chapitres, et puis dans 200 ans quelqu'un va écrire les 2 chapitres suivants, et dans 200 ans quelqu'un va écrire les 2 chapitres suivants, et dans 200 ans on se dit que dans 1000 ans le livre qui en sortira sera peut-être pas super cohérent. Ce qui n'est pas complètement farfelu, hein. C'est assez incroyable. Et l'idée que ce soit Dieu qui a inspiré, c'est ce qui permet d'expliquer l'unité et la cohérence de ce livre. Et c'est pour ça qu'il y a cette unité de thème auquel on vient en deuxième point. Et le thème majeur de la Bible, c'est la rédemption. La Bible nous décrit l'activité de Dieu pour la rédemption de l'homme. Il a un plan, on a vu dans la Genèse 3, il annonce, et il fait avancer l'histoire de l'homme avec ce plan qui se déroule, et ça n'est pas du hasard, et il révèle progressivement les choses. Comme je vous disais, la rédemption, elle se propage petit à petit. Il y a Abraham qui est appelé par Dieu. Ensuite, ça devient une famille, une tribu, une nation. Et ensuite, avec l'arrivée de Jésus, ça va pouvoir se propager à toute l'humanité. Et que ça va se finir avec la création tout entière qui va être rachetée, qui va être dans cette rédemption. Et avec cette unité de thème, cette idée que c'est la rédemption qui est le thème majeur de la Bible, je voulais noter que le Dieu, il a un plan, et son plan a pour objectif sa gloire. C'est répété dans plein de textes, l'idée que Dieu veut être glorifié, que ce que Dieu fait et son plan, c'est pour sa gloire. Et pour toute autre personne, toute autre créature que Dieu, ce serait de l'arrogance et de la folie. on peut, il y a des gens qui ont du mal avec cette idée dans la Bible et qui se disent mais c'est finalement c'est complètement Dieu est complètement un but de lui-même et le voit comme quelque chose de négatif. Mais l'idée par rapport à comment la Bible nous présente Dieu, c'est que Dieu est le créateur et que par son existence, par sa nature même, il mérite la gloire. Et d'une certaine manière, c'est ce qui le préoccupe. On a du mal à comprendre. On peut se tourner et regarder quelques versets, si vous voulez. Dans Nombre 14, verset 21... Nombre 14, verset 21. C'est l'Éternel qui parle et il dit « Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. » On avait regardé la semaine dernière le petit prophète Habacuc. Et il y a un verset aussi, le verset 2,14. Où il dit « En effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. » Donc c'est Habacuc 2,14. Vous pouvez le noter et le chercher après. Et on voit dans le Nouveau Testament qu'il en est question aussi, dans Philippiens 2, on est de question aussi. Paul en parle souvent. Souvent quand on lit les épîtres de Paul, on retrouve cette idée. Philippiens 2, verset 5 à verset 11. « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » En lisant ces choses aussi, il est intéressant de noter que c'est souvent des passages qu'on peut prendre un petit peu on voit la gloire de Dieu, on dit ça un petit peu comme on dirait « salut, ça va », un petit peu en passant, sans y réfléchir. Mais l'idée qui revient, c'est que les choses sont faites pour la gloire de Dieu. Et c'est ce but et cet objectif. Et Paul, dans 1 Corinthiens 10, 31, il dit « Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Alors, il y a plein d'autres versets qui parlent de cette gloire et qui ont cette idée en filigrane. Et il y a même des hypothèses au niveau du pourquoi. Souvent, on se dit, il y a des gens qui se posent la question, pourquoi Dieu a créé l'homme, la terre, comme il l'a fait, pourquoi il s'est décidé à faire tout ça, et avec Satan, les anges, on a l'impression qu'il y a plein de choses, et on ne peut pas savoir la volonté de Dieu, et ces questions, malheureusement, on ne peut pas y répondre. Mais il y a des gens qui émettent des hypothèses et il y a notamment des passages, Paul en parle, où il dit que les anges regardent ce qui se passe sur terre et ils désirent plonger leur regard dedans comme un mystère. Et il y a des gens qui se disent peut-être que d'une certaine manière, ce qui se passe sur Terre est aussi pour les anges. On voit avec l'histoire de Satan, et on n'a pas regardé en détail, mais dans Ézéchiel et dans d'autres passages, que Satan était l'ange suprême de Dieu, en quelque sorte, et qu'il s'est rébellé contre Dieu parce qu'il voulait la gloire pour lui-même, et qu'il a entraîné avec lui une partie des anges. Et ça nous donne un petit peu l'idée d'une presque une guerre civile au niveau des anges, où il y a une partie qui suit Satan, une partie qui reste avec Dieu. Et peut-être que d'une certaine manière, cette histoire sur Terre, là, de voir ce que Dieu fait au niveau des hommes, de voir comment il a ce plan de la rédemption dans l'histoire de l'humanité, peut-être qu'en plus d'avoir cet effet sur les hommes et d'avoir cette relation avec l'homme, ça amène peut-être aussi une certaine gloire et encore plus de quelque chose vis-à-vis des anges. C'est des hypothèses complètement impossibles à vérifier, mais c'est une idée que je trouve intéressante à émettre par rapport à cette idée de gloire. Et Dieu est digne de cette gloire, et la Bible nous montre que quand Dieu reçoit la gloire, la création est dans le bon ordre, et que quand nous rendons gloire à Dieu, quand nous donnons à Dieu cette gloire, c'est là que nous sommes satisfaits, parce que nous remplissons le rôle pour lequel nous avons été créés. La Bible, finalement, a une unité au niveau du personnage de Jésus. C'est le personnage principal de cette histoire, on le sait. Mais parfois aussi, là, on a du mal à voir le pourquoi et le comment, notamment par rapport à l'Ancien Testament. Ça m'est arrivé, ça vous est sans doute arrivé, et il y a des gens qui posent souvent la question de dire « Mais est-ce que c'est le même Dieu ?» On voit un Dieu un peu sanguinaire, qui demande à éradiquer des peuples, qui permet des choses, qui juge. On voit dans les choses qui sont dites dans les prophètes, on a l'impression que il parle de son épée qui se satisfait du sang qui coule et des choses. On a l'impression que c'est un Dieu qui est en décalage avec le Dieu qu'on voit incarné avec Jésus, avec la grâce, avec le personnage de Jésus qui est plein d'amour, qui accepte les gens, qui dit de ne pas juger. De pas condamner les gens, etc. Et on a du mal parfois à réconcilier les deux. Mais on en a parlé un petit peu et on va le regarder maintenant. La vie de Jésus est présente dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et ce qui s'est passé dans la vie de Jésus a été annoncé dans toutes les Écritures. Et le liant et le fil rouge de la Bible, et on en a parlé et je le répète, c'est la troisième fois que je le dis, mais c'est l'idée que l'Ancien Testament permet de donner le contexte qui permet l'arrivée de Jésus. Avec on a vu dans Genèse 3:15, il y a la graine de la femme dont il est question, la semence de la femme. Il y a Abraham qui va ensuite donner la famille, la tribu, la nation. Et puis, une fois qu'on arrive à cette nation, on a une sorte de recentrage vers la famille de David, et qui est annoncée comme la famille par laquelle Jésus, le Messie, va arriver dans les prophéties. Dans le Nouveau Testament, dans Jean 5, 39, Jésus parlant aux scribes et aux pharisiens dit « Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. » Et dans Luc 24, 27, après la résurrection de Jésus, il y a une histoire où il croise deux disciples qui ne le reconnaissent pas et il marche avec eux. Et donc Luc 24-27 nous dit « Puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait. » Et on voit aussi dans Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7, ou plutôt, si on veut s'attarder sur cette idée, au verset 7, donc Hébreux 10, 7, il dit « Alors j'ai dit, me voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire au Dieu ta volonté. » Et cette idée que toutes les Écritures, au moment où Jésus est vivant, il dit que toutes les Écritures que les Juifs considéraient comme étant leurs écrits de la part de Dieu le concernent, parlent de lui, l'annoncent, et c'est la Bible qui l'annonce. C'était Hébreux 10, verset 7. Et quand on lit l'Ancien Testament, on peut voir vraiment une attente sous-jacente, un désir pour la venue de Jésus-Christ et pour l'œuvre qu'il allait faire sur terre. On a parlé de l'idée que les Juifs attendaient et parlaient souvent de ce Messie qui devait venir. On avait parlé du jour du Seigneur, cette idée que Jésus allait venir et qu'ils attendaient, ils essayaient de comprendre quand ça allait être, et on a vu les différentes prophéties. Et il y a vraiment, si on lit l'Ancien Testament en cherchant ces choses, on peut trouver plein de choses qui parlent de Jésus, vraiment de manière assez incroyable. On va en regarder quelques-uns. Mais pour regarder un petit peu les différentes parties, on va dire, de la Bible, et je vous avais dit que la Bible était hétérogène et qu'il y avait différentes parties, mais qu'elles travaillaient tous ensemble par rapport à l'objectif avec la rédemption en thème et avec la rédemption par Jésus. Et si on veut regarder les différentes parties, on a les livres de Moïse, le Pentateuque, les cinq premiers livres qui nous présentent la loi, qui nous présentent ce qu'on a dit, la mise en place de la scène, du problème qu'a l'homme et de la loi que Dieu va leur donner à suivre. Et cette loi va montrer le besoin d'un sauveur. In fine, c'est ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, elle montre que l'homme ne peut pas accéder à Dieu. Ensuite, on a vu les livres historiques qui nous montrent le contexte, qui nous montre toute la situation, la mise en place pour l'arrivée du Messie. On pourrait lire les poètes, on avait vu avec les psaumes, avec les proverbes, avec Cantique des Cantiques, il y a souvent exprimé le désir de voir Jésus arriver, le désir qu'il vienne et qu'il corrige la situation. Si on lit les psaumes de David, on peut le voir, ce désir qui est exprimé de manière poétique. Ensuite, les prophètes, on avait regardé les grands prophètes, les quatre grands prophètes, et puis les 12 petits prophètes, et eux, ils annoncent souvent de manière très littéral, très direct, l'arrivée de Jésus, ce que ça va être, ce que ça va comment ça va se passer. Ensuite, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on a les évangiles qui nous parlent directement de l'apparition, de l'incarnation physique de Jésus, de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. On a le livre des Actes qui nous montre on pourrait dire la propagation de l'œuvre de Jésus à travers l'Église vers le monde entier. Les épîtres, on pourrait dire que c'est l'interprétation de la venue de Jésus et de la mise en pratique de ce que ça veut dire pour nous et de ce que ça veut dire qu'on doit faire au niveau de nos vies et de comment se comporter. On a vu dans 1 et 2 Pierre, on peut voir dans les épîtres de Paul, ils expliquent ce que le fait que Jésus soit venu, qu'il soit mort et ressuscité, ce que ça implique. Et puis on va voir dans le livre de l'Apocalypse l'achèvement de toute chose en Jésus et l'achèvement de l'histoire et de ce plan de la rédemption au final à travers Jésus. Et donc Jésus est la clé de voûte de toute cette histoire, de tout ce plan. Et souvent, quand on étudie la Bible, si on regarde la Genèse, si on étudie certaines choses dans l'Ancien Testament, on peut se trouver dans des situations où on a peut-être des doutes. Vous regardez l'histoire de la création par rapport à ce qui est annoncé dans le monde. On peut essayer de dire avoir des débats on connaît les débats avec la théorie de l'évolution par rapport à l'idée de la création par Dieu. Les athées qui dans le monde vont contrer les choses qui sont dites dans la Bible. Mais la manière dont la Bible est présentée, c'est que c'est Jésus qui valide le reste. C'est pas si on trouve des choses qui nous valident la création, alors tout le reste s'ensuit, c'est bon. C'est la vie de Jésus qui valide le reste. Si la vie de Jésus ne s'est pas passée comme elle s'est passée, alors il n'y a pas vraiment d'importance si les récits dans l'Ancien Testament sont vraiment exacts ou pas. C'est vraiment la vie de Jésus qui est importante. Jésus a existé. C'est pas défendable intellectuellement de renier ou de nier l'existence physique de Jésus sur Terre. Il n'y a pas de manière logique de le défendre. Alors après, on peut parler de sa personne et de ce qu'il a enseigné, etc. Mais c'est pas défendable intellectuellement de le nier. Il y a trop de choses, des sources extérieures à la Bible qui nous permettent de l'affirmer. Donc Jésus a existé. Si Jésus a existé, alors on doit considérer ce qu'il a fait et voir ce qu'il a dit et voir ce que ça implique. Et il y a des gens qui vont dire la Bible, non, c'est, ils ont inventé les paroles de Jésus, il était peut-être là, mais après ils ont rajouté des choses. Mais les évangiles, on a des sources et on sait que les écrits du début ont été écrits à l'époque où il y avait encore des témoins qui étaient vivants, des témoins qui étaient présents avec Jésus, qui étaient présents pour les événements qui sont décrits dans les évangiles. Et on ne peut donc pas non plus vraiment logiquement nier ce qui est écrit dans les évangiles. Et on peut regarder notamment le début de Luc 1, l'introduction à l'évangile de Luc. Il est dit: « Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » ce genre de d'introduction à un livre, c'est pas un livre de mythe ou de légende ancienne. C'est un livre d'investigation. C'est quelqu'un qui dit, je suis allé voir un tel pour être sûr du récit qu'on avait entendu de leur part. Dans 2 Pierre 1, ce qu'on a étudié à l'église, Pierre dit, en effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Et dans Jean 21-24, Jean parlant de lui-même, en écrivant, il dit, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Et ces témoins qui ont vu ce que Jésus avait fait, qui ont vu la mort et la résurrection de Jésus, sont quasiment tous morts, martyrs, pour ces choses. Ça donne donc un poids. S'ils avaient dit, bon, Jésus, en fait, il est mort, et puis on a inventé l'histoire, on a embelli l'histoire, et on a raconté les choses, il n'y a aucun sens pour aller jusqu'à la mort avec ces histoires-là. Ils n'y gagnent rien. Ils ne font que perdre leur vie pour une histoire qui serait fausse. Et donc, la vie de Jésus est là aussi, et les évangiles sont affermis par ces choses, cette approche. On peut vraiment aborder la vie de Jésus, le Nouveau Testament, avec un regard critique, avec des raisonnements et avec la raison, sans devoir chercher dans des choses bizarres. Et par rapport à ce que Jésus a dit, on voit plusieurs fois, et ce que les scribes et les pharisiens lui reprochent, c'est qu'il se fait l'égal de Dieu. Ils disent je suis Dieu, je suis le Messie. Et ce que Jésus dit, il n'y a que 3 manières de le voir. Soit il ment et il n'est pas au courant, il est fou. Ça arrive, il y a des gens qui se prennent pour Napoléon, j'en sais rien, mais c'est en général des gens qu'on laisse enfermer ou qu'on traite avec des médicaments lourds. Et les témoignages des gens dans les évangiles, on voit que ce n'était pas un fou. On voit qu'à un moment, le Sanhédrin envoie des gens chercher Jésus pour l'enfermer. Ils vont le voir, et quand ils le voient parler, ils disent « Personne n'a jamais parlé comme cet homme ». Ils sont impressionnés. On voit que sa manière d'interagir avec les scribes et les pharisiens est raisonnée, est claire. Il n'y a pas de... C'est pas le discours d'un homme fou. C'est des choses sensées. La deuxième option, c'est que soit il ment et il le sait. Ça veut dire qu'il veut duper les gens. Mais là aussi, quel intérêt à duper les gens en étant pauvre et en se faisant tuer là aussi, ça n'a aucun sens. Et l'autre option, c'est qu'il dit la vérité et qu'il est Dieu. Et Jésus, quand on l'aborde vraiment de manière logique, quand on s'attache à essayer d'analyser la vie de Jésus et son existence, il ne nous laisse pas d'alternative. Souvent, les sectes, même l'islam, les témoins de Jéhovah, les mormons, souvent ils vont essayer de dire oui, Jésus, alors c'était un prophète, mais c'était pas Dieu incarné, c'était un grand homme. Ou souvent même les gens vont nous dire, mais Jésus c'était quelqu'un de vraiment bien, c'était un genre de Che Guevara qui pensait aux petits et qui voulait défendre la cause des pauvres. Un Robin des Bois, en quelque sorte. Mais un Robin des Bois qui dit « Je suis Dieu », ça n'est plus un Robin des Bois, c'est un mégalomane ou un fou. Il y a un problème. Là encore, c'est un petit peu comme l'idée que Dieu veut recevoir la gloire. Si ce n'est pas Dieu, si c'est quelqu'un d'autre, si moi je vous dis « Je veux recevoir la gloire », vous allez me dire « Oui, d'accord, mais t'es fou, enfin, vous allez partir et vous aurez raison ». Et y a un livre très intéressant qui a été écrit par un journaliste américain qui est traduit en français. Et en fait, ce journaliste américain n'était pas croyant, était athée et a voulu écrire un livre en prouvant que Jésus n'était pas Dieu et a voulu écrire quelque chose pour démontrer que non, que c'était faux et que de manière très concrète. Et en écrivant ce livre, en fait, il accepte que Dieu, que Jésus est vraiment Dieu et vraiment qui il est. Et son livre finit par être une défense de Jésus en tant que ce qu'il annonce en tant que présence dans la Bible. Et c'est un livre très intéressant à lire et qui reprend ses points avec beaucoup de détails, beaucoup plus que ce que je vous ai donné là.
À la fin, il n'est plus athée alors.
Bah non, à la fin, il s'est converti, oui. C'est l'idée. Donc c'est en anglais, le titre, c'est. Je vous le chercherai après. Si ça vous intéresse, je pense qu'on l'a même peut-être ici, si jamais ça. Ça vous chauffe. Jésus, sa vie et la Bible. On a parlé des prophètes et des prophéties. Et alors la Bible a un message incroyable pour plein de raisons, mais les prophéties lui donnent un caractère incroyable. Et là aussi, on en a parlé, mais les prophéties qui se sont réalisées dans la vie de Jésus, surtout, comme Jésus est le point central, c'est ce qui nous intéresse, mais il y a un certain monsieur Payne qui a écrit en Angleterre une encyclopédie de la prophétie biblique. Et donc ce gars-là, il s'est intéressé et il a cherché à regarder toutes les prophéties dans la Bible, tout ce qui pouvait être compris comme une prophétie, etc., et d'écrire et de faire les corrélations, de regarder ce que ça voulait dire. Donc il a écrit un gros pavé style dictionnaire sur la prophétie. Et lui, il dit que dans la Bible, il y a 8362 versets qui sont considérés comme étant des versets de prédiction, qui annoncent quelque chose. Il dit qu'il y a 1817 prédictions différentes. Donc ces 8000 versets parlent de 1800 choses qui doivent arriver et qu'il y a 737 sujets différents. On avait vu des choses dans Daniel, on a vu des choses dans les prophètes, on a vu des choses par rapport au jour du Seigneur, dans les petits prophètes, on a vu ne serait-ce que ce qu'on a lu dans la Genèse, le chapitre 3, verset 15, par rapport à l'annonce que Dieu fait, disant que le serpent va écraser va mordre le talon de la semence de la femme, mais que lui va écraser la tête du serpent. C'est une annonce. Et on a parlé de, par exemple avec Daniel, du fait que les choses étaient considérées comme tellement précises et tellement exactes que les critiques de la Bible ont renié l'idée que ça puisse avoir été écrit à l'époque où on dit que ça a été écrit. Qu'ils disent c'est tellement précis que ça a forcément dû être écrit après. C'est pas possible. Et on a dit qu'il y avait les découvertes des rouleaux dans les grottes de Qumran en 1947 qui avaient permis de voir qu'en fait on avait des copies qui dataient de plusieurs centaines d'années, des choses complètes d'Ésaïe. On va regarder après certaines de ces prophéties qui décrivaient de manière très détaillée ce qui allait arriver à Jésus et que on a les preuves archéologiques sans aucune hésitation qui nous montrent que ces choses ont été écrites des centaines d'années avant la vie de Jésus. Et on a aussi la traduction de la Septante. On avait dit que un des Ptolémées en Égypte avait demandé une traduction des livres sacrés juifs à 70 érudits juifs 250 ans avant la vie de Jésus. Et il voulait une traduction en grec pour avoir à disposition quelque chose que les Grecs pouvaient lire et comprendre sur la foi des Juifs. Et on a donc cette traduction qui nous permet là aussi de voir que ces choses de l'Ancien Testament étaient en place et étaient présentes 250 ans avant la vie de Jésus, sans pouvoir être contestées. là aussi, c'est archéologiquement, logiquement, rationnellement, on ne peut pas s'y opposer. Alors après, on peut essayer de dire que les... Par exemple, dans la vie de Jésus, ben, peut-être qu'il connaissait les prophéties, donc après, il a essayé d'arranger sa vie pour y répondre. Mais il y a certaines prophéties pour lesquelles il ne pouvait pas répondre. Le fait d'être né à Bethléem, on a du mal à décider de où on va être né. il y a des circonstances qui sont hors de notre contrôle et on va regarder quelques-uns ici après. C'est intéressant de regarder dans l'Ancien Testament quelques-unes des paroles. Dans Amos 3, 7, il est dit « En effet, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » C'est un verset intéressant. On a l'impression qu'il annonce par avance, exprès, comme pour signer son œuvre. Cette idée qu'il dit, mais moi je suis Dieu et je peux annoncer les choses et les faire après. Comme ça vous êtes sûr que c'est bien moi qui ai agi. Et c'est ce qu'il dit effectivement, il le dit en ces termes dans Ésaïe 46, les versets 9 à 11. Il dit « Souvenez-vous des tout premiers événements. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. » Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. C'est moi qui appelle de l'Est un oiseau de proie, d'une terre lointaine, l'homme chargé de réaliser mon projet. Ce que j'ai dit, je le ferai arriver. Ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre. Donc Dieu dans la Bible dit, je suis Dieu et ma manière de vous le montrer, c'est que je peux annoncer des choses longtemps à l'avance et faire qu'elles se réalisent. Et pourquoi est-ce que c'est, je vous le fais noter, dans 2 Pierre, donc encore ce qu'on étudiait, je vous l'ai lu tout à l'heure le verset 16, et dans 2 Pierre 1, verset 16 à 21, il est dit « En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. » Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous considérant comme d'autant plus certaine la parole des prophètes, vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre. Et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Pierre dit donc qu'on doit considérer la parole des prophètes, qu'on doit la regarder avec attention, parce que c'est quelque chose qui, il dit que, dans d'autres traductions, il est dit qu'elle est comme une lampe qui brille dans un endroit obscur. Qu'elle nous permet d'être sûr de notre foi. Qu'elle permet d'être sûr de ce qui est dans la Bible. Alors, on va regarder brièvement, avant de terminer, quelques-unes des prophéties. On considère que dans l'Ancien Testament, il y a environ 300 prophéties concernant le Messie. Dans le Nouveau Testament, si on regarde des prophéties qui sont citées dans le Nouveau Testament, il est dit qu'il va être de la famille de David, qu'il va être né d'une vierge, qu'il va être né à Bethléem, qu'il allait séjourner en Égypte, qu'il allait vivre en Galilée, qu'il allait vivre à Nazareth, que quelqu'un viendrait avant lui qui est appelé Élie. Que sa venue causerait le massacre des enfants à Bethléem, qu'il annoncerait ou il publierait une année de jubilé pour le monde, que sa mission inclurait les païens, les non-juifs, dans ce plan de la rédemption, qu'il allait guérir beaucoup de gens, qu'il allait enseigner en parabole, qu'il ne serait pas cru et qu'il serait rejeté par les chefs religieux, qu'il aurait une entrée triomphale à Jérusalem sur un ânon, qu'il allait être trahi par un ami pour 30 pièces d'argent, qu'il serait un petit peu comme un berger abattu ou sans apparence, qu'on allait lui donner du vinaigre à boire lors de sa mort, qu'on allait tirer ses vêtements au sort, qu'on lui percerait le côté, qu'il n'aurait pas d'eau brisée lors de sa mise à mort, qu'il allait mourir avec des malfaiteurs, qu'il allait être enterré par un homme riche. Dans certains psaumes, ses dernières paroles sont même annoncées, qu'il allait ressusciter le troisième jour et que la destruction de Jérusalem suivrait sa résurrection. Ceux-là, ce ne sont que ceux qui sont explicitement cités dans le Nouveau Testament. Il y en a d'autres qu'on peut regarder dans l'Ancien Testament et voir qu'elles s'accomplissent dans la vie de Jésus. Et pour donner un petit peu de lourdeur ou de sens ou de signification à ces prophéties, il y a des gens qui ont fait des calculs de probabilité sur quelques-unes de ces prophéties pour se dire, est-ce que ce sont des choses qui peuvent arriver? On a du mal parfois à se dire, si je vous dis que pour gagner le loto, c'est une chance sur, ils estiment, sur 1 sur 20 millions. C'est à peu près l'estimation des probabilités pour que quelqu'un gagne en jouant une fois au loto. Donc une fois sur 20 millions, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. C'est un petit peu bizarre. C'est des chiffres, on peut rajouter, si je vous dis une chance sur 10 milliards, une chance sur 100 milliards, vous dites c'est un peu la même chose, c'est gagner au loto, quoi. C'est de l'ordre du presque impossible. Il y a des gens qui en ont pris 8 de ces prophéties, à savoir qu'il allait être né à Bethléem, qu'il allait arriver en tant que roi à Jérusalem, sur un ânon, qu'il allait être trahi pour 30 pièces d'argent, il allait être trahi dans le temple et que la rançon pour la trahison allait servir à acheter le champ du potier, qu'il allait être blessé sur les mains, qu'il allait avoir les mains percées, qu'il n'allait pas se défendre lorsqu'il allait être accusé, qu'il allait mourir avec des meurtriers, on se souvient des deux brigands à ses côtés, qu'il allait être dans la tombe d'un riche, et qu'il allait être crucifié. À noter que, par exemple, l'idée qu'il allait être crucifié vient dans les psaumes par la voix de David 700 ans avant la création du supplice de la croix. C'est-à-dire que ça n'existait même pas en telle que méthode de mise à mort à l'époque où l'annonce a été faite. Et avec ces probabilités-là, alors si ça vous intéresse, vous pouvez me demander plus tard et je vous donnerai les chiffres qu'ils ont utilisés. On dit par exemple, à l'époque, pour être né à Bethléem, il y avait peut-être sur la planète tant de personnes. Et donc la chance pour qu'il soit né à Bethléem, c'est peut-être... Et donc ils prennent des chiffres. Et en faisant ces calculs, ils arrivent à l'idée qu'il y a une chance sur... Alors c'est 10 puissance 28... c'est-à-dire 1 suivi de 28 zéros, donc c'est plus des milliards, des trilliards, etc., c'est des chiffres, etc., très grands. Donc c'est une chance sur 10 puissance 28. La chance de gagner au loto, c'est une chance sur 10 puissance 7 ou 8. Donc on voit que c'est des ordres de grandeur beaucoup plus grandes. Ces 8 prophéties, cette probabilité-là, si on fait un calcul un petit peu de superficie de la France et qu'on essaie de regarder pour essayer de se donner une idée de ce à quoi ça ressemble au niveau que ça arrive par hasard, ce serait comme si on prenait des pièces de 2 euros, on recouvre toute la France, tout le territoire de la France sur une hauteur de 50 cm. C'est ce que ça représente, 10 puissance 28 pièces de 2 euros. Donc toute la France couverte de 50 cm partout, ici, partout. On prend une pièce de 2 euros, on la marque, on la met quelque part et on vous dit, faites le tour et trouvez-la. La chance pour que vous répondiez à ces 8 prophéties, c'est la chance que vous tombiez en prenant une pièce de 2 euros sur la pièce qui est marquée. C'est-à-dire que c'est impossible. Voilà, sachant que ça, c'est en prenant 8 prophéties. Il y a quelqu'un d'autre qui a fait un calcul sur 48 prophéties. Il arrive à un chiffre, c'est de l'ordre de 1 sur 10 puissance, je crois que c'est 128. On estime que le nombre d'atomes dans l'univers est de l'ordre de 10 puissance 70-80. Donc c'est comme si on marquait tous les atomes dans l'univers et qu'on en prenait une et qu'on tombait sur la bonne. Mathématiquement, les mathématiciens estiment que quelque chose qui est de l'ordre de 1 sur 10 puissance 50 équivaut à de l'impossible. Donc les prophéties sur la vie de Jésus signent la parole de Dieu comme étant l'annonce de la part de Dieu. Et Dieu le dit dans Ésaïe, moi je suis Dieu parce que je peux dire quelque chose et le faire arriver. Et il en fait arriver plein dans la vie de Jésus. Là aussi, si ça vous intéresse, il y a un article intéressant sur un site qui s'appelle Dieu existe. Ils abordent des questions plus scientifiques comme ça, des choses comme ça. Ils expliquent un petit peu ces calculs-là. Dans l'Ancien Testament, on a vu aussi ces exemples qui font penser à Jésus. Il y en a plein. Je passe vite parce qu'on arrive à la fin de notre heure déjà. Mais par exemple, on avait parlé d'Abraham et d'Isaac sur la montagne. Quand Dieu demande à Abraham d'offrir en sacrifice son fils Isaac, et que Dieu au dernier moment l'arrête et pourvoit quelque chose à la place. Et on avait dit qu'on pensait même que c'était peut-être sur la même montagne, que c'était au même endroit. Et on avait vu dans le désert, il y a un épisode où il se rebelle contre Dieu et il tombe malade. Et Dieu demande à Moïse de mettre un poteau en bois avec un serpent en bronze sur le poteau en bois. Et pour être guéri, pour ne pas mourir, les gens devaient simplement regarder ce serpent en bronze qui était sur un poteau. Ça fait penser évidemment à la mort de Jésus sur la croix et l'idée que c'est en faisant confiance à Jésus qu'on a la rédemption. On avait vu des choses avec la semaine dernière, Jonas, les 3 jours dans le poisson. Il y a des choses qui ressortent sans arrêt. Il y a des petits clins d'œil dans tout l'Ancien Testament quand on regarde plus tard et qu'on voit la vie de Jésus et qu'on regarde après ce qui s'est passé, on dit mais c'est pas possible. C'est encore une fois l'idée que ça a vraiment été écrit 300 ans avant. On prend la Bible souvent et on a du mal à se remettre ça dans le contexte. C'est comme je vous disais, essayer d'écrire quelque chose pendant 300 ans et qui donne des clins d'œil exacts, que quelqu'un serait mort pendant 3 jours, qu'il ressusciterait, qu'il serait né à tel endroit, qu'il aurait... C'est vraiment des choses d'un détail incroyable. Il n'y a pas d'hésitation possible pour dire que c'est Dieu qui a donné la Bible et qui a signé son message. Dans l'Ancien Testament, on voit aussi toutes les attaques et la persistance de Satan contre tout ce qui allait amener Jésus. La lignée, on voit la manière dont la descendance d'Adam est corrompue, dont l'idée qu'il s'attaque à Abraham. On voit les problèmes avec Ishmaël, où il essaie de corrompre la descendance d'Abraham, où il essaie d'éradiquer le peuple d'Israël par des famines, dans Exode quand ils sont en Égypte, par le pharaon qui veut détruire tous les mâles bébés, par le pharaon qui les poursuit pour les garder en esclavage, pour les difficultés quand ils peuplent le territoire de Canaan, pour les peuples qui s'opposent à eux, pour les différentes choses qui leur arrivent, pour les choses qui se passent contre la lignée de David. Si on regarde en détail, on voit plein d'attaques. On voit ce qu'on a vu dans le livre d'Esther avec ce personnage Aman ou Aman qui essaie de faire exterminer le peuple juif. On voit les attaques sur Jésus de son vivant. Hérode qui dit « Ah, il y a le Messie qui est né à tel endroit, donc tous les bébés de 2 ans et moins, zigouillez-les. » Vraiment, cette succession, et on voit que Satan s'oppose et essaie de combattre Jésus. Et on va le voir jusque dans l'Apocalypse, il est opposé à Jésus jusqu'à la fin. Et ces choses, ces choses dans la Bible et ce thème, tout ce dont on a parlé aujourd'hui doivent nous donner de l'assurance dans notre foi en Jésus. La Bible veut qu'on soit sûr de notre salut. Dieu veut qu'on soit sûr de notre salut et veut qu'on soit sûr de ce message. La Bible est cohérente, elle est digne de foi. Elle contient des prophéties exactes et incroyables qui la signent comme étant la parole de Dieu. Et on doit pouvoir avoir cette assurance. Et nous savons que les doutes et le monde veulent nous faire hésiter, veulent nous faire douter que l'ennemi est opposé à notre foi et est opposé à Jésus, est opposé à son œuvre, est opposé à son plan de rédemption dans le monde. Et la Bible et tout ce qui s'y trouve, ce plan de la rédemption, on doit en être sûr que c'est le plan de Dieu pour l'homme, pour l'histoire de l'humanité, et que ça, il veut que ce soit l'histoire pour nos vies. Je pense que je vais m'arrêter là. Prions et puis si on a des questions, on peut en discuter. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ta parole. Aide-nous à être sûrs de notre foi en toi. Aide-nous à regarder la Bible et à pouvoir la présenter avec une grande assurance, Seigneur. Ne laisse pas Satan avec le monde nous intimider, Seigneur. Tu es Dieu, tu as annoncé ce qui allait arriver et tu l'as fait se passer. Tu as annoncé des choses qui allaient venir dans le futur et tu es Dieu. Tu mérites la gloire et tu mérites notre louange, Seigneur. Aide-nous à te donner ce qui t'est dû. Amen.